Testament, notamment pour évoquer quelques travaux aussi de savants qui ont démontré la haute antiquité et l'authenticité des textes du Nouveau Testament. Alors, parmi les travaux intéressants qui sont effectués depuis quelques dizaines d'années, il faut citer les travaux de l'École de Jérusalem pour l'étude des évangiles synoptiques. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'École biblique des Dominicains, on confond souvent les deux choses. L'École de Jérusalem pour l'étude des évangiles synoptiques, c'est une équipe de chercheurs qui s'est rassemblée autour du pasteur Lindsay, Robert Lindsay, qui était pasteur de l'église baptiste de Jérusalem, et puis du professeur Flusser, donc d'un juif et d'un chrétien, qui ont été amenés à se pencher justement sur l'origine des évangiles. Et le pasteur Lindsay a commencé ce travail à partir du moment où il a souhaité refaire une nouvelle traduction du Nouveau Testament en hébreu moderne. Il existait des éditions, des traductions anciennes du Nouveau Testament en hébreu, et la plus répandue était l'édition de Litch, qui datait du siècle dernier, et qui est encore aujourd'hui largement utilisée en Israël pour parmi les juifs messianiques. La traduction de Litch est pratiquement la traduction officielle, si vous voulez, qu'on trouve dans les assemblées messianiques d'Israël. Le pasteur Lindsay n'était pas très satisfait de cette traduction. Il estimait d'une part qu'elle était un peu vieillotte par rapport à l'évolution de la langue hébraïque moderne, et d'autre part qu'elle n'était pas toujours très exacte. Et il a donc entrepris un travail de traduction de Nouveau Testament à partir du grec, et comme il le disait lui-même, il a eu une étrange impression quand il a commencé à traduire le texte grec. Il disait « J'avais plus l'impression de restaurer que de traduire ». Et pour un homme qui, comme lui, parlait l'hébreu couramment, c'était des mots qui revenaient instantanément. C'est pareil, il avait commencé cette traduction en 1959, et il avait décidé de commencer par l'évangile de Marc, dans la mesure où, selon disons l'exégèse traditionnelle, Marc était le plus ancien. Ça, on est dans la perspective qu'on évoquait la dernière fois, savoir que le plus simple est le plus ancien, puisqu'on est dans la perspective de l'évolution, n'est-ce pas, de l'amibe au singe et à l'homme. Automatiquement, donc, on passe du plus simple au plus compliqué. L'évangile de Marc étant le plus simple, il est forcément le plus ancien. L'évangile de Jean étant le plus complexe, il est forcément le plus récent. Bon, et à partir du moment où il a effectué ce travail, le pasteur Lindsay a commencé à avoir des doutes. Finalement, est-ce que Marc est vraiment le plus ancien, comme l'affirmaient les critiques? Et quand il est passé à Luc, il s'est rendu compte que l'évangile de Luc était beaucoup plus proche du substrat hébraïque que d'autres avant lui déjà avaient soupçonné derrière le substrat du Nouveau Testament. Et il a constaté qu'il était finalement plus facile de retraduire Luc en hébreu que Marc. Et il s'est posé la question de savoir si, après tout, Luc ne serait pas plus ancien que Marc. Et c'est une de ses théories, n'est-ce pas, la théorie de l'école qu'il a rassemblée autour de lui, des chercheurs qu'il a rassemblés autour de lui, dont certains ont été de mes condisciples d'ailleurs à l'Université de Jérusalem. Et il est arrivé à des conclusions totalement différentes des conclusions traditionnelles, à savoir que pour lui, Luc était le plus ancien, Marc venait ensuite, et Matthieu était le plus récent. Matthieu ayant utilisé Marc. Bon, c'est une théorie qui se défend et en même temps qui prête le flanc à un certain nombre de critiques, dans la mesure où c'est pas parce que le texte est plus exact, plus facile à retraduire en hébreu, que ça prouve l'antériorité de Luc par rapport à Marc. Ça peut tout simplement vouloir dire que Luc était plus proche de la source originale, que comme il avait fait des recherches exactes, comme il le dit lui-même dans son prologue, Il avait peut-être été plus loin dans ces recherches-là que ne l'avait été l'auteur de l'évangile de Marc. Pierre, si on en croit la tradition, qui serait finalement celui auquel, qui aurait dicté l'évangile à Marc, qui porte le nom de Marc. Et il estime que il y a de nombreux parallélismes. Bon, je n'entre pas dans tous les, les détails, les travaux qu'il a effectués. Ce sont des travaux qui sont en cours seulement, donc on n'est pas encore arrivé à des conclusions définitives. Et finalement, les découvertes qu'ils ont faites sont tellement nombreuses sur le plan justement de comment on dit en anglais, le background, du substrat hébraïque des évangiles d'une manière générale, que jusqu'à ce jour, seul à ma connaissance, l'évangile de Marc, retraduit, n'est-ce pas, a été publié. On attend justement les deux autres évangiles synoptiques. Je pense que d'ailleurs, ils pensent s'arrêter là pour l'heure, n'est-ce pas ? Il n'y aura pas de retraduction de l'évangile de Jean, parce qu'il y a d'autres problèmes qui interviennent, et puis non plus d'ailleurs des autres écrits du Nouveau Testament. Et l'école de Jérusalem est arrivée à la conclusion que, somme toute, nous avions affaire à un targum, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une traduction-explication qui était un témoignage à la fois juif de la communauté primitive, de la communauté chrétienne primitive. La langue, la traduction, le style agadatique, le style midrashique, la tradition orale sous-jacente correspond tout à fait à ce que l'on sait justement des targums, et notamment justement du targum dans la synagogue. Il y a là une vision chrétienne qui est une interprétation messianique de la Bible, de l'Ancien Testament, et que nous aurions affaire finalement à un texte qui est très ancien et très sûr. Donc, par des voies un petit peu différentes et avec des conclusions un petit peu différentes de celles de l'abbé de Claude Trémontant et de l'abbé de Carmignac, Robert Lindsay et puis David Flusser arrivent à des conclusions voisines, à savoir la très grande fiabilité du texte du Nouveau Testament. Finalement, comment alors apprécier la position classique sur les évangiles ? S'agit-il d'une vérité subjective ? Et finalement, une autre question qui se pose, peut-on faire confiance au Nouveau Testament ? L'évangile est-il un genre littéraire, comme veulent nous le faire croire les critiques modernes ? L'Église est-elle le but des évangiles ? Est-ce qu'il y a une tradition qui est une gangue ? D'ailleurs, on retrouve cette théorie ici dans le Nouvel Observateur, qui dit qu'on ne peut pratiquement rien connaître de Jésus à travers des évangiles, que tout est subjectif, que tout a été le produit de l'imagination de la communauté chrétienne primitive. Je crois que les travaux modernes font justice de cette position, qui est une position de non-foi, bien sûr, au départ, ça c'est sûr, mais le christianisme est une foi qui est basée sur des faits historiques. Si on retire les faits historiques, c'est l'échelle qu'on retire, et s'ils ne sont pas historiques, tout l'édifice du christianisme s'écroule. Par conséquent, dire que les évangiles ne sont que des genres littéraires, c'est quelque chose qui détruit la foi. Bon. Alors, c'est aussi ce problème qu'un évêque anglican s'était posé. Il se nomme Robinson. Robinson a fait scandale en son temps, dans les années fin des années 50, début des années 60, par un livre qui avait fait sensation à cette époque-là, qui s'appelait Honest to God, qui a été traduit en français sous un titre provocateur, Dieu sans Dieu. Et l'évêque Robinson, dans ce livre, détruisait pratiquement l'essentiel de la foi chrétienne, et notamment à partir du fait que, justement, il se basait sur cette affirmation que l'on trouve là, que les évangiles n'étaient pas fiables, que l'on ne pouvait pas connaître, qu'on ne pouvait rien connaître de Jésus. Et devant le succès de son livre, parce que ce genre de livre-là a un succès formidable, n'est-ce pas ? Quand on écrit pour détruire la foi chrétienne, on est sûr d'être lu et d'être vendu et de faire fortune. C'est un moyen facile de faire fortune que d'attaquer la foi chrétienne, et c'est pourquoi on ne s'en prive pas. Voir le succès d'Arte et de tous ces trucs-là. Et donc, pour affiner son analyse, Robinson a étudié vraiment la chronologie des évangiles synoptiques. Et il l'a fait non pas à partir d'une approche historique, comme l'ont fait par exemple des gens comme Carmignac ou Trémontant, mais à partir essentiellement de la linguistique. De la linguistique, qui était sa spécialisation, sa spécialité. Et il est arrivé alors à des conclusions qui l'ont stupéfait, savoir que, contrairement à ce qu'on pouvait, ce qu'on affirmait, les évangiles étaient beaucoup plus récents que ce qu'on avait pensé. Et il est arrivé, lui, qui était si loin de Dieu, on pourrait dire, si loin d'une position évangélique telle qu'on la conçoit nous, n'est-ce pas, est arrivé à des conclusions qui étaient proches de celles des savants que nous avons évoqués, Carmignac, Trémontant, Flusser et d'autres, n'est-ce pas, à savoir que, contrairement à l'herméneutique officielle, eh bien, les évangiles étaient des documents fiables, très anciens et fiables. Il a écrit ça dans un bouquin qui, comme vous vous en doutez, n'a pas eu le même succès que le précédent et qui est resté pratiquement ignoré, justement, parce que lui, au contraire, défendait la thèse de l'authenticité de l'écriture. Or, c'est très intéressant, cette démarche d'un savant. Je ne vais pas reprendre sa démonstration parce qu'elle est assez complexe à partir de la linguistique. Et finalement, je cite Robinson, non pas tant pour sa méthode, mais pour montrer une démarche intéressante d'un homme qui était quand même foncièrement honnête, intellectuellement honnête, et qui est parti de l'a priori qu'on lui avait enseigné certainement quand il était allé à étudier la théologie, donc il était bultmannien, quoi. Les évangiles ne sont que le produit de la foi de l'Église et non pas de faits historiques. Et ça lui avait posé des problèmes dans sa propre foi. Il avait rejeté, encore une fois, l'essentiel du christianisme. Et quand il a voulu affiner son analyse, eh bien, il est arrivé à une conclusion inverse. Et il est revenu à la foi en Dieu. Ce qui montre bien, n'est-ce pas, qu'un homme honnête, intellectuellement honnête, sans a priori, parce qu'on va dire des gens comme Carmignac ou des gens comme Trémontant, c'est des gens qui ont la foi. Donc ils ont un préjugé, ils ont un a priori de foi. Les autres ont un a priori de non-foi, mais ceux-là, ils ont un a priori de foi. Or, voilà un homme qui n'avait pas un a priori de foi, au contraire, il avait un a priori de non-foi, et qui arrive à une conclusion diamétralement opposée de celle, justement, des critiques dont nous parlions tout à l'heure. Et il s'en prend, par exemple, à l'idée que le fait, n'est-ce pas, de démythologiser fait en sorte que la foi est beaucoup plus épurée. Pour lui, c'est un non-sens, c'est une aberration que de parler ainsi. Bon, très rapidement, parlons de la langue des évangiles. Bon, nous en avons déjà parlé, donc je n'y reviens pas tellement. Là, nous avons donc une langue qui est un décalque de l'hébreu, et ça, c'est finalement la conclusion à laquelle arrivent tous les savants, parce que justement, on a conservé les paroles de Jésus, ce qui confirme ce que affirmait Papias, le père de l'Église. Nous avons déjà parlé que les paroles de Jésus, les logia de Jésus, les paroles de Jésus ont été mises par écrit en hébreu et qu'elles ont ensuite été décrites et ensuite été traduites. Chacun les traduisit comme il le put, nous dit Papias, mais que l'original était donc en hébreu. Donc nous avons là des témoignages littéraires extrêmement importants qui sont confirmés par les recherches honnêtes de gens qui veulent être un petit peu honnêtes et non pas de ceux qui ont des a priori de non-foi, comme nous le disions tout à l'heure. Ce qui est d'ailleurs remarquable, c'est que tous ceux qui écrivent de cette manière-là, comme Robinson ou comme Trémontant ou d'autres, sont l'objet d'un mépris systématique, n'est-ce pas, des autres savants qui les traitent de fondamentalistes. Et quand on a été traité de fondamentaliste, c'est comme si on était traité d'être quelqu'un de secte. C'est fini, la cause est entendue, vous pouvez apporter les arguments les plus valables, les plus sensés, les plus... la cause est entendue, c'est terminé. Alors, c'est pourquoi, quand on tombe sur des écrits comme cela, ou bien sur des émissions de télé comme Arte, qui a fait tant de mal à tant de gens, n'est-ce pas, il ne faut absolument pas se laisser impressionner par les ailes importantes de ces messieurs, par les affirmations péremptoires, n'est-ce pas, nous savons que, n'est-ce pas, ils ne savent rien du tout, ces gens-là, n'est-ce pas, Ils font les fiers, n'est-ce pas? Mais en fait, comme dit la parole de Dieu, ils veulent être docteurs de la loi, ils ne savent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. C'est exactement ça, je crois qu'on peut dire. Alors, la mythologisation et la démythologisation dont parle Bultmann, n'est-ce pas? Et les néo-bultmanniens qui, même s'ils ne se disent plus disciples de Bultmann, ont en tout cas admis comme un fait évident que les évangiles doivent être démythologisés, que c'est un genre littéraire, pour eux il n'y a plus à se poser de questions, n'est-ce pas? C'est un débat qui clôt, si on le rouvre, c'est qu'on vraiment, on est un imbécile. En fin de compte, ce qui est certain, c'est que les affirmations de ces gens-là tiennent de moins en moins la route. Hein. Et que malgré l'espèce de terrorisme intellectuel qu'ils font régner dans ces milieux-là, eh bien, il y a de plus en plus de voix discordantes, même des gens qui sont des leurs, comme l'évêque Robinson dont je parlais il y a un instant, qui disent le contraire. Je vous disais dernièrement dans une revue catholique une attaque terrible contre Tiècle et tous ceux qui ont fait des recherches sur vous savez, les fragments des évangiles qui ont été trouvés dans les grottes de Qumran, avec des arguments qui sont totalement fallacieux, n'est-ce pas? Mais ça peut pas être parce que c'est comme ça, parce que c'est pas selon les vues de ces messieurs. Point, c'est tout. Il y a pas à discuter. Et les autres, on peut être papyrologue, on peut être spécialiste dans ces disciplines-là, alors que ces gens-là n'y connaissent dans le domaine de la papyrologie pas plus que vous et moi. C'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, non, ça ne nous paraît pas valable. C'est quand même ça qui est formidable. Ça ne nous paraît pas valable. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas conforme aux nos conclusions, c'est tout, quoi. À une espèce comme ça de, comment dirais-je, dans le domaine scientifique, c'est vrai pour l'évolution, d'ailleurs aussi, et donc pour tous ces mythes modernes, vous avez des espèces d'idées consensuelles qui font partie, qui sont l'apanage et l'héritage de toute la communauté scientifique. Et comme finalement les savants se surveillent les uns les autres, non pas qu'il y ait une espèce de... c'est pas centralisé, mais enfin, dans les faits, n'est-ce pas, ils se surveillent les uns les autres, finalement, ils finissent par adopter un certain point de vue. Et puis, c'est un dogme, c'est un tabou. Et ce qui se passe très souvent dans ces cas-là, c'est que des jeunes générations viennent et puis bousculent le tabou. On me dit, mais ça ne tient pas la route, c'est pas vrai, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, finalement, il y a une autre vision des choses qui apparaît et qui redevient aussi, comment dirais-je, aussi coercitive, aussi contraignante que ne l'était le tabou précédent. C'est comme ça que progresse la science. C'est-à-dire que le monde scientifique est un des mondes les plus obtus, si j'ose dire, le plus fermé à des idées nouvelles qui soient. Parce que chaque savant a peur de briser le consensus et puis se faire fusiller par ses collègues. Alors, on reste prudemment dans le consensus jusqu'à ce que finalement l'inanité du consensus soit tellement évidente, eh bien que finalement, comme dans l'histoire, vous savez, du roi qui était nu, eh bien, à force d'avoir crié ben, « le roi est nu ben, », tout le monde finit par dire ben, « oui, c'est vrai, le roi est nu ». Bon, alors je crois que pour ce qui est justement de l'origine des évangiles synoptiques, c'est un petit peu le phénomène qu'on est en train de vivre. Il y a cette espèce de chape, n'est-ce pas, qui post-bultmannienne, les évangiles sont un tissu de mythes, et puis ça et là, maintenant il y a des voix qui, du petit enfant qui dit, ben non, le roi est nu, et puis, non, c'est pas vrai, le roi n'est pas nu, parce que vous connaissez l'histoire, ceux qui disaient que le roi était nu étaient des imbéciles. Alors c'est exactement ça. Puis le petit enfant, lui, qui ne savait pas ce que c'était que d'être un imbécile, il voit le roi comme ça, il dit, tu vois les beaux habits du roi, comme il a des beaux habits, etc. Non, il est tout nu. Il dit son père, faut surtout... Puis après, mais il a raison, dit un deuxième, mais c'est vrai qu'il est tout nu. Puis le troisième, mais c'est vrai qu'il est tout nu. Et puis finalement, tout le monde dit, bah oui, le roi est nu. Bon, on en arrive là. Je crois que ça, c'est tout à fait intéressant de constater qu'on arrive à ce stade aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors voilà, si vous voulez, en gros, tout ce qu'on peut dire de ce problème des évangiles. Donc nous avons en fin de compte un texte qui est extrêmement sûr, comme le disait le professeur Flousset quand je l'ai rencontré la dernière fois. Il disait en tant que savant, bien entendu, 99,9 chances sur 100 que l'ensemble du texte biblique soit authentique. Maintenant, évidemment, vous allez me dire le 1% qui reste, le 0,1% qui reste, qu'est-ce que c'est? C'est la précaution du savant, tout simplement. Hein. Mais quand on arrive à ce degré statistique, je crois qu'on peut dire 100%. Hein. Bon. Alors, avec ce chapitre, nous terminons la bibliologie. Maintenant, nous allons attaquer un nouveau grand chapitre de la théologie systématique. C'est l'avant-dernier, c'est l'éthique. Nous serons beaucoup plus brefs sur l'éthique, parce que notre message, notre prédication est essentiellement éthique. Donc, revenir en détail sur l'éthique, sur les différents points de l'éthique, reviendrait finalement à répéter ce que nous disons chaque dimanche et puis chaque fois que nous en avons l'occasion. Ce sont des choses qui sont, je pense, bien acquises au milieu de nous et qui n'exigent pas qu'on y revienne d'une manière très très profonde. Mais donc, c'est surtout, nous allons, ce chapitre est plus un chapitre pour mémoire qu'une étude vraiment systématique et approfondie de l'éthique. L'éthique, c'est l'étude du comportement juste, du comportement requis par l'Écriture. C'est pratiquement synonyme de morale. Mais vous savez que le mot morale aujourd'hui est très, très mal vu. C'est un mot qui semble désuet, dépassé, etc. Et on préfère parler d'éthique. Alors, bon, on va parler d'éthique pour faire plaisir à certains, pour être tout à tous, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que finalement, c'est le comportement. Et certain que c'est ce qui découle justement d'une saine doctrine. Si on ne pense pas bien, on ne pourra pas agir bien. Ça, c'est un des fondements essentiels de l'Écriture. Il faut avoir une doctrine juste pour avoir une éthique juste. Comme diraient les marxistes, une praxis juste, ça veut dire une conduite, un comportement juste. Alors, quel est le fondement de l'éthique chrétienne? Ça, c'est le premier point. Et là, on touche à un des, des points de désaccord essentiels dans l'Église chrétienne, n'est-ce pas? Puisque, en tant que gens issus de la Réforme, nous partons justement d'une conception protestante de l'éthique et de la Bible tout court. Et donc, c'est Luther qui nous donne les fondements de l'éthique chrétienne. Luther, à partir de la vision de la justification par la foi, nous dit l'action juste, l'action morale, est la conséquence de la foi. Il faut, et c'est le fondement de l'éthique chrétienne, avoir fait l'expérience de la justification par la foi pour ensuite avoir une conduite conforme aux exigences de l'Évangile. Quand le chrétien agit bien, il le fait sans contrainte, et ce faisant, il n'est plus sous la loi, il n'a pas besoin de loi. C'est en cela que Luther se distance de l'Église catholique, qu'il accuse d'avoir judaïsé en quelque sorte. Et ça répond un peu à la question que David posait la dernière fois. Pourquoi est-ce que Luther est devenu aussi antisémite? Ah, c'était aussi sa vision de la loi. Luther était un antilégaliste. Alors, finalement, le problème se pose. Le chrétien agit-il dans le domaine moral parce qu'il est obligé de le faire par la lettre de la loi, ou bien parce que la loi est écrite au fond de son cœur par l'expérience de la conversion, par l'expérience de la nouvelle naissance, et par conséquent, le chrétien né de nouveau, enfin Luther n'emploie pas cette expression, mais le chrétien justifié par la foi, va spontanément, naturellement, et on pourrait presque dire sans effort, accomplir ce que la loi de Dieu demande, ce que la loi de Dieu prescrit. Et bien entendu, Luther avance pour confirmer ce qu'il affirme là, bien des affirmations de Paul, notamment à partir de l'Épître aux Romains. Romains 6, 7 et 8 en particulier. Alors, certains textes des Galates aussi vont dans le même sens, etc. Il est certain qu'à partir d'une telle affirmation, Luther découvre quelque chose de très important, ou redécouvre plus exactement quelque chose d'important. Et bien entendu, nous ne pouvons que le suivre sur ce terrain-là. Grosso modo, on retrouve quelque chose de semblable aussi chez Calvin, plus nuancé, nous verrons tout à l'heure, parce que Calvin est un réaliste. Mais néanmoins, il y a des nuances à apporter à ce que Luther affirme. Et précisément, le manque de nuances de Luther a frété le flanc à bien des attaques, notamment justement de la part du côté catholique. Et la question qu'on peut poser à Luther est celle-ci. Le chrétien régénéré, c'est vrai, a la loi de Dieu écrite au fond de son cœur. Ça aussi, Paul le dit ça dans les Épîtres aux Corinthiens, n'est-ce pas ? Vous êtes une lettre écrite non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, dans les cœurs, c'est vrai. Et c'est vrai que lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, comme Paul le dit dans Romains 8, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous faisons spontanément, nous faisons naturellement, nous faisons joyeusement ce que la Bible demande. Luther était augustinien. Et Augustin avait dit aussi quelque chose de semblable, qui a souvent été fort mal compris d'ailleurs, qu'on retrouve dans le Nouvel Observateur, là aussi c'est très intéressant. En gros, Augustin dit ceci, le christianisme se résume à l'amour. L'éthique chrétienne se résume à l'amour. Et Augustin avait cette phrase qui est une boutade, et qui, comme toutes les boutades, demande à être nuancée. Aime et fais ce que tu voudras. Et alors, cette boutade fort mal comprise, disais-je, que Luther reprend à son compte, enfin, en dernier ressort, a fait beaucoup de mal. Parce qu'il faut l'expliciter. Augustin commentait aussi ce que Paul écrit aux Romains, quand il disait « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car toute la Torah, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait de mal à personne. L'amour, dit Paul, est donc l'accomplissement de la Torah. » Alors, magnifique. Aime et fais ce que tu voudras. Qu'est-ce que Augustin voulait dire à la suite de Paul ? Quand l'amour de Dieu remplit notre cœur, l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes, pour notre prochain, quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous pouvons faire ce que nous voulons, parce que conduits que nous sommes par l'amour de Dieu, l'amour ne fera rien qui porte atteinte au prochain, l'amour ne fera rien qui soit contraire à la Torah de Dieu. Il ne fera que l'accomplir. C'est la même pensée que celle de la Torah écrite dans les cœurs. Seulement, il y a deux problèmes. Le premier est celui-ci. Le chrétien est-il vraiment toujours rempli par l'amour de Dieu ? Est-il toujours rempli du Saint-Esprit ? Et la réponse de Paul est claire, non. Nous ne sommes pas toujours remplis du Saint-Esprit. Parce que, nous dit Paul, il y a dans la vie du chrétien ce qu'il appelle le vieil homme, la vieille nature. Et là, Paul reprend une notion juive, qui est souvent fort mal connue des chrétiens, qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme deux tendances. Yotzer hara et yotzer hatov. Ce qui provoque le bien, la conduite bonne, et ce qui provoque la conduite mauvaise. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la communion de Dieu, dira l'apôtre Paul, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Mais si nous ne sommes plus dans la communion de Dieu, alors vous allez me dire, pourquoi ne serions-nous plus dans la communion de Dieu ? Eh bien, parce que nous avons négligé de cultiver cette communion. Parce que les circonstances extérieures sont venues aussi obscurcir la présence de Dieu. Parce que nous avons des luttes et des combats soudains qui font que nous ne sommes plus exactement comme nous étions dans une certaine circonstance, parce que nos humeurs sont changeantes. Nous ne sommes pas d'humeur égale. Les circonstances de nos vies sont changeantes et les circonstances de nos vies influent sur nos humeurs. Quand tout va bien, quand le soleil brille, quand les oiseaux chantent, quand les fleurs sont sur nos chemins, comme disent certaines chansons, hein, vous connaissez ça chez les scouts, des chansons comme ça, c'est pas ça, comment c'est...
C'est un cantique, je crois.
Oui, il y a aussi des cantiques là-dessus, mais quand c'est... Quand le ciel est bleu, mon garçon, que les fleurs, je sais plus quoi, parfument le vent... Bon, s'il fait un air joyeux, mon garçon, pas de problème. Mais quand le ciel est gris, mon garçon, que le soleil dure en gelant, etc., siffle un air joyeux, bon, c'est déjà plus pareil. Eh bien, c'est certain, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a aussi, tout simplement, le fait que quelquefois, Dieu aussi fait en sorte que nous ressentions moins sa présence. Alors là, le Yotzer Hara, le vieil homme, la chair, dira l'apôtre Paul, reprend le dessus. Enfin, peut reprendre le dessus. En tout cas, se remanifeste. Et quand nous disons à ce moment-là, fais ce que tu voudras, eh bien, ça peut avoir des conséquences graves. Et c'est pourquoi, comme l'ont rétorqué les théologiens catholiques à Luther, le Nouveau Testament est rempli de commandements, est rempli d'ordres qui sont donnés par les apôtres. Si donc, spontanément, le chrétien fait toujours ce qui est juste et bien aux yeux de Dieu parce qu'il est régénéré, comment se fait-il que les auteurs du Nouveau Testament, disent les théologiens catholiques, se soient sentis poussés à mettre tant de recommandations, de commandements ? Alors, ça c'est une première nuance. C'est une première nuance extrêmement importante. Nous ne pouvons pas vivre simplement sur cette idée « aime et fais ce que tu voudras ». Alors, une espèce de vision romantique du christianisme, épinalesque, à l'eau de rose, à la pâte de guimauve, qui court dans bien des lieux d'église, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est la justice, et vous retrouvez ça d'ailleurs là, c'est la caricature habituelle, n'est-ce pas. L'Ancien Testament, donc le judaïsme, c'est la loi, c'est le Dieu de justice, c'est le Dieu exigeant, c'est le Dieu jaloux. Tenez, je vais vous lire ça parce que c'est tout à fait intéressant. On trouve ici, on est à fond dans notre sujet avec cet éditorial ici. Ce qu'il y a de plus beau dans le christianisme. Voilà. Même si pour les croyants, la foi ne peut être séparée de l'enseignement de Christ, celui-ci a un caractère universel que Yeshua, tellement universel que Yeshua ne peut appartenir au seul chrétien. Il est la lumière du monde. Au travers d'un message simple, aimez-vous les uns les autres. En affirmant accomplir la loi hébraïque, Jésus bouscule les traditions pour affirmer la primauté de l'amour sur la justice. Eh bien, c'est drôlement caricatural. Car Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais affirmé la primauté de l'amour sur la justice. Il a affirmé que la justice de Dieu s'accomplit dans l'amour. Et c'est exactement ce que Paul dit dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, n'est-ce pas ? que c'est l'amour, n'est-ce pas, qui donne valeur aux actes de justice que nous accomplissons. C'est ça que Jésus a voulu dire. Mais Jésus n'a pas opposé la justice et l'amour, ce qu'on fait toujours dans ces cas-là. Bon, continuons. Il aime les hommes jusqu'au sacrifice sur la croix. Pourtant, son message libérateur a été trop souvent réduit à une morale contraignante, pesante, incompréhensible, contraire à ce qui faisait sa force. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pourquoi aujourd'hui encore, des hommes croyants ou non, s'approprient le message du Christ pour montrer comment, cette fin de siècle impitoyable, il est une voix venue de très loin qui dit « si vous avez l'amour, tout est possible ». Vous voyez, on est à fond dans cette caricature du christianisme. À fond, à fond, à fond. Et alors justement, aujourd'hui plus que jamais, et nous avons ici la preuve, on oppose l'amour à la morale, à l'éthique. Aime et fais ce que tu voudras. C'est exactement ce que dit ici l'éditorialiste. Alors, fais ce que tu voudras, ça veut dire, vis dans le désordre, sois homosexuel, pratique l'avortement, etc., etc. Du moment que tu aimes, hein, et que tu as... Finalement, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est quelque chose de vague. Contribuer à aider comme Mère Teresa, alors ça, l'abbé Pierre, c'est des gens qui vivent l'amour. Alors évidemment, on ne se rend pas compte que cet amour qu'ils vivent là est un amour drôlement contraignant. Hein. Seulement, voyez-vous, quand on encense des gens comme Mère Teresa, ou comme l'abbé Pierre, ou d'autres philanthropes du même ordre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une manière de se donner bonne conscience par procuration. Heureusement qu'il y a des gens comme Mère Teresa et comme l'abbé Pierre ou comme l'armée du salut qui font ce que je devrais faire et que je ne suis pas capable de faire, que je n'ai pas envie de faire. Et finalement, quand je vois Mère Teresa, que j'encense Mère Teresa, que je dis, voilà, ça c'est quelqu'un d'extraordinaire, je me dis que je suis un peu Mère Teresa aussi, quoi. Vous comprenez ? Mère Teresa, c'est un peu moi. Surtout que j'envoie un petit chèque pour les œuvres de Mère Teresa. Je mets une petite pièce dans la marmite de l'armée du salut au moment de Noël, en écrasant une petite larme du coin de l'œil pour tous les pauvres clochards qui vont pouvoir ainsi avoir un petit peu à manger grâce à ces braves gens qui s'occupent en mon nom, n'est-ce pas, de... Et finalement, quand j'ai mis 100 sous dans l'armée du salut, et puis qu'ils vont ensuite, avec ça, porter une soupe au clochard, c'est un peu moi qui l'ai fait, quand même. Je ne suis pas si mauvais que ça, après tout. Et comme ça, je vais pouvoir aller faire mon mans, moi, tranquillement, réveillonner, m'enivrer, faire des orgies pour la fête de Noël, en disant, je ne suis pas si mauvais que ça, quand même. Okay, c'est ça. C'est ça, finalement. C'est ça qu'ils veulent dire, là, ces gens-là. Aime et fais ce que tu voudras. C'est un petit peu court, quand même. C'est un petit peu court. Et la Bible ne nous présente pas ça du tout de cette manière. C'est pas... Encore une fois, nous ne sommes pas toujours remplis de l'amour de Dieu. Et même Mère Teresa doit se forcer, doit se contraindre, devait, enfin maintenant, être dans la gloire, certainement. Mais enfin, elle devait se forcer, se contraindre aussi pour faire ce qu'était son devoir. Oh, le mot abominable, le devoir. Comme je racontais Jacques Ellul un jour, quand on parle des droits de l'homme constamment, il en avait les oreilles rabattues, n'est-ce pas, d'entendre parler des droits de l'homme. Alors il avait, avec quelques amis, présenté à la Fédération protestante une charte des devoirs de l'homme. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Les devoirs de l'homme, l'homme n'a que des droits, il n'a que des devoirs, parce que le seul devoir que nous avons, c'est l'amour. Formidable. Oh, vous savez, moi je suis rempli d'amour. Oh, les pauvres exclus. Pensez par exemple à un homme comme Coluche. Ah, voilà un homme rempli d'amour, n'est-ce pas? Juste au moment où il allait se faire coincer pour fraude fiscale et autres menus freuden du même genre, il allait passer devant les tribunaux. Il a eu l'idée géniale de créer les Restos du Cœur. Depuis, c'est Saint Coluche. Voilà. Ça lui a évité justement, et puis voilà. Alors, c'est une espèce de. J'aime, j'aime. J'aime, j'envoie pour Coluche, il aimait, et ces gens-là, c'est pas un peu de philanthropie par là, puis je milite au Parti Socialiste pour aider les plus démunis, et puis bon, maintenant on milite moins, parce que les partis, qu'ils soient socialistes ou non, ont perdu pas mal de panache, de prestige. Mais il y avait des gens qui faisaient ça, comme ça, c'est pas, c'était une manière. Alors, militer au Parti Socialiste, ça voulait dire voter pour la gauche, ça voulait dire envoyer une carte de cotisation, une petite somme, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas des gens qui allaient coller des affiches, ni quoi que ce soit. Non, ils étaient comme ça. Alors, vous voyez, là, c'est cette espèce de mythe de l'amour qui est une ruine de nos sociétés, qui est une ruine du christianisme moderne. Et si vous faites autrement, eh bien, vous êtes légaliste. Vous êtes légaliste. Et le plus grand péché qu'un chrétien puisse commettre, c'est le péché de l'égalisme. Or, justement, malheureusement, ben, le Nouveau Testament, pour ne pas parler de l'Ancien, puisque l'Ancien, évidemment, c'est selon Marcion, abominable, c'est le Dieu jaloux, oh là là, le Dieu jaloux, on trouve ça dans les manuels scolaires, même dès la 6e, je ne sais pas si ça trouve encore, mais enfin, du temps, mes enfants, votre temps, c'était ça. Je ne sais pas si ça existe encore, on parle encore de Dieu jaloux dans les manuels scolaires. Non, quand on fait les Hébreux, là, en 6e. Qui c'est qu'il y a des enfants 6e, Luc? Non? Non, comment? Ça a disparu?
Il y a le décalogue, mais...
Ah oui. Enfin bon, c'était il y a quelque temps encore. Et voilà, donc, le légalisme, c'est la chose à éliminer par-dessus tout. Or, justement, la règle d'or, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, a besoin justement de points de repère. Non seulement parce que nous ne sommes pas toujours remplis du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu pour accomplir spontanément ce que la loi demande, mais aussi parce que il nous faut des points de repère. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement aimer? Et finalement, la question du docteur de la loi à Jésus, qui est mon prochain, n'est pas si idiote que ça. D'ailleurs, Jésus n'écarte pas la question. Il va lui dire qui est son prochain. À le faire comme le font les rabbins. Et les commandements de Dieu sont quoi? Eh bien, ce sont là pour nous montrer la manière pratique de pratiquer l'amour. De pratiquer l'amour envers le prochain. Ésaïe 58, si tu vois un pauvre, ne te détourne pas de lui, partage ton pain avec celui qui a faim, couvre celui qui est nu et fais entrer sous ton toit le malheureux sans asile. Ben c'est quoi? C'est la manière de pratiquer l'amour. Quand Jean-Baptiste dit à ceux qui venaient vers son baptême, les soldats lui demandaient ben, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions, ben, vous ferez ceci, vous ne ferez pas cela. Et nous, les péagers, ben, faites. Ne faites pas de fraude ni d'extorsion, etc. Ah ben c'est pratique. Comment pratiquement vivre l'amour? C'est pas quelque chose qui est évident. Hein? Est-ce que l'amour pour l'enfant, c'est de lui donner une fessée de temps en temps quand c'est utile pour lui, ou bien est-ce que c'est de le laisser tout faire? Ben c'est pas évident, obligatoirement. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on en discute. Pendant des siècles, on a dit, ben, c'est donner la fessée. Et aujourd'hui, ben, dans le climat de laxisme moral qui est celui de notre société, c'est au contraire ne pas lui donner la fessée qui est une preuve de l'amour. Ben, comment s'y retrouver? Comment s'y retrouver devant ces manifestations de l'amour? On est finalement, quand on reprend tous les systèmes éthiques, quels qu'ils soient, quelle est la finalité justement de tous les systèmes éthiques? Eh bien, c'est justement, en dernier ressort, on peut dire que c'est l'amour du prochain. Alors dire que le christianisme, c'est l'amour, et puis que le judaïsme, c'est la loi, ou que c'est une ineptie, c'est une ineptie. L'Ancien Testament est tout aussi rempli de l'amour que l'Ancien. C'est quand même dans l'Ancien Testament qu'on trouve « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il ne faut peut-être pas quand même l'oublier. C'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve « tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ». C'est dans l'Ancien Testament que nous disons « tu aimeras l'étranger », etc. Enfin, c'est quand même, il faut quand même avoir une vision moins que caricaturale. Or, dans les églises aujourd'hui, c'est ça. Dans la plupart des églises évangéliques, n'est-ce pas, c'est l'amour. À partir du moment où vous êtes rempli d'amour, eh bien, On n'a plus le droit de juger, on n'a plus le droit de donner de directives, on n'a plus le droit de donner de points de repère moraux. C'est pas, la morale est anéantie par l'amour. Alors que précisément, c'est l'inverse. Et Luther était allé si loin dans ce domaine-là qu'il ne voulait même plus de l'épître de Jacques, parce que l'épître de Jacques, justement, était une épître qui parlait des œuvres. Ben oui, on est justifié par les œuvres. Mais les œuvres faites par la foi, c'est pas contradictoire. Et Luther voulait ôter du canon l'épître de Jacques parce que, justement, elle insistait sur les œuvres. Et le protestantisme, issu de la Réforme, au XVIIe siècle notamment, n'était réduit finalement qu'à un credo intellectuel. Il fallait avoir une doctrine juste, et puis il n'y avait plus aucune dimension morale. Et c'est contre précisément ce laxisme moral que l'on trouvait donc dans le protestantisme de cette période-là qu'ont réagi les réveils. Le piétisme de Zinzendorf d'abord, puis le piétisme de Wesley. Donc le méthodisme a fait cette constatation, dit, enfin, on ne peut quand même pas vivre sans règles. On ne peut quand même pas vivre sans point de repère. On ne peut quand même pas vivre sans une discipline de vie, sans une méthode. D'où le nom de méthodisme qu'on a donné à ce mouvement. Mais en milieu protestant, ça a été loin de faire l'unanimité. Et c'est encore loin de faire l'unanimité, plus que jamais. Ça ne fait pas l'unanimité. Or, pourtant, quand on étudie la Bible, il ne fait aucun doute, n'est-ce pas, que l'amour débouche sur des choses pratiques, sur des choses concrètes. Pas sur votre colère, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il travaille honnêtement de ses mains pour pouvoir pourvoir à ses propres besoins et à ceux des siens. Enfin, on pourrait multiplier, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, s'il y a 613 commandements dans la Torah, il y en a 1010 dans le Nouveau Testament. C'est quand même pas rien, ça veut dire quand même quelque chose. Et parler de légalisme à ce niveau-là, c'est vraiment être totalement à côté de la plaque. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'on peut avoir une approche qui n'est pas bonne non plus. Et c'est pourquoi, comme toujours, l'éthique chrétienne est une ligne de crête, une marche sur une corde raide. Et la critique de Luther à l'endroit de l'Église catholique n'était pas infondée, pas plus que ne l'était la critique de Paul à l'endroit du judaïsme de son temps, ou d'un certain judaïsme de son temps, disons, pour être plus exact. Ça. On peut effectivement, comme le disait justement encore aujourd'hui dans certains milieux juifs, n'est-ce pas, on oppose justement le christianisme au judaïsme en disant « Le judaïsme n'est pas une religion de foi, c'est une religion du faire. Peu importe ce que vous croyez, diront un certain nombre de juifs, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de croire que la Torah de Moshe est inspirée, vous n'êtes pas obligé de croire qu'il y aura une résurrection des morts, même par exemple un homme comme Maïmonide prenait quelque chose comme ça. L'essentiel, c'est que vous appliquez à la lettre tous les commandements de la Torah, que vous allumiez les bougies de Hanouka, que vous ne fassiez pas plus d'un kilomètre le jour du Shabbat, que vous portiez des petites filines, des choses comme ça. Et puis, ceci dit d'ailleurs, certains n'hésiteront pas à mentir, à tricher, à voler, etc. Bon, il y avait par exemple même le chef du parti religieux, d'un des partis religieux d'Israël, il y a quelques années, qui s'est retrouvé en prison, mais c'était un homme très pieux, hein. Attention, alors là, dans sa prison, j'aimerais autant vous dire qu'il respectait tout, hein, les prescriptions, il mangeait cachet et tout, alors ça, pour ça, il n'y a rien à lui reprocher. Maintenant, pour ce qui était de son administration financière, ça c'est autre chose. Mais enfin, il ne voyait pas d'incompatibilité entre ça et ça, hein, parce que c'est essentiel, c'est de faire ce qui est écrit, respecter les commandements, peu importe ce qu'on croit. Paul dit non, si je n'ai pas l'amour, combien même je donnerai mes biens aux pauvres, combien même je donnerai mon corps pour être brûlé par le feu, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout devant Dieu. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, tout ce qui n'est pas inspiré par la foi est péché. Alors, c'est vrai que ce que nous devons rechercher, c'est avoir nos cœurs tellement remplis de l'amour de Dieu que Nous n'ayons pas besoin de nous contraindre. Mais ceci dit, il faut savoir que ça, c'est l'idéal vers lequel on tend. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Dans la vie du chrétien, il y a les deux. Il veut faire ce qui est juste et bien aux yeux de Dieu parce qu'il a rencontré le Seigneur. Ça, c'est sur le plan général. Mais dans chaque cas particulier, dans chaque circonstance de sa vie, ce n'est pas toujours comme ça, obligatoirement. Et comme le montrait très bien Karl Barth, eh bien, quand c'est ainsi, nous sommes tentés de faire autrement. Béni soit Dieu pour le commandement qui nous dit « tu feras ça et tu feras pas ça ». Parce que ça, c'est un point de repère. C'est la frontière entre le bien et le mal. Et ça nous permet de savoir ce qui est juste et bien aux yeux de Dieu. Et c'est le don de l'amour de Dieu que ce commandement-là, justement. Et le recevoir de cette manière-là, eh bien, c'est aussi le recevoir dans la foi. Et avoir foi que ce commandement est juste et bon, que ce commandement, même si il me semble discutable humainement, vient d'un Dieu d'amour, d'un Dieu sage, d'un Dieu juste, et par conséquent que je dois, en tant qu'être humain, m'efforcer de le mettre en pratique dans ma vie, m'efforcer de le vivre. Et l'amour du prochain et l'amour pour Dieu nous amène ainsi à perdre notre propre vie. C'est-à-dire, dit Jésus, se détacher de son égocentrisme naturel. Le produit du péché dans la vie de l'homme, c'est précisément l'égocentrisme, l'amour de soi, la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, c'est ce qui nous amène à tout ramener à nous-mêmes. Moi et rien que moi, disait la prostituée dans le roi de Tyr, je ne sais plus, chez Ézéchiel, n'est-ce pas? La prostituée qui représentait Babylone, je ne sais plus, il y a un texte qui dit ça. Et par conséquent, je fais tout en fonction de moi-même, en fonction de mes intérêts, en fonction de mes désirs, et la mort à soi-même, à laquelle nous sommes invités par le Seigneur, puis ensuite par Paul dans ses épîtres, c'est se détacher de cet égocentrisme, que chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses intérêts, ce qui est une démarche charnelle, encore que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous désintéressions nos intérêts, comme disait Hillel, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, si je ne suis pas pour moi, qu'il sera. C'est évident. Mais que chacun de vous, au lieu de considérer seulement ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est toujours pareil, là, c'est toujours l'équilibre. Moi aussi, je suis une personne humaine. Moi aussi, j'ai mes intérêts, j'ai mes besoins, bon. Et sauf extraordinaire, il faut bien que je m'en préoccupe aussi un peu. Mais c'est pas seulement mes intérêts que je prends en compte, c'est aussi les intérêts des autres. Et puis, l'amour du prochain m'amène à satisfaire, à ne pas chercher à satisfaire, comment dirais-je, mes besoins immédiats seulement. Et l'amour de Dieu répandu dans mon cœur me montre que même pour moi, pour mes intérêts, ce n'est pas toujours la satisfaction immédiate de mes besoins. Et c'est ça la sagesse de Dieu. L'homme juste, ça j'ai développé ça pendant le séminaire à Carhaix, l'homme juste c'est aussi l'homme sage. Et le sage, c'est celui qui a la lumière de la parole de Dieu, et de l'esprit de Dieu, mais de la parole de Dieu d'abord. C'est mesurer le meilleur, qui est prêt à sacrifier le bien pour le meilleur. Bon, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui cherche à un enfant, par exemple, mettons un enfant auquel on vient de faire ici les crottes en chocolat pour Noël, eh bien, le bien pour lui, c'est de tout manger. À tout manger, ces chocolats, d'un seul coup, quoi. Il ne se rend pas compte qu'il va se flanquer des maux d'estomac, des maux d'intestin terribles. Il ne mesure pas ensuite les conséquences. Tandis que les parents vont dire à l'enfant, bah, écoute, mange pas tout. Prends-en un petit peu. D'abord, parce que si tu manges tout, tu n'auras plus rien demain. Et ça ne durera pas. Ton plaisir va être immédiatement terminé. Puis surtout, tu vas avoir ensuite des déconvenues terribles. Alors, je t'interdis. Si l'enfant ne comprend pas, s'il ne veut pas comprendre, le père dit, ou la mère dit, je t'interdis de manger, par exemple, plus de 5 de chocolat. Maintenant, c'est terminé. Tu as mangé assez de chocolat, je prends la boîte, puis je la mets de côté, tu l'auras demain. T'es méchant. Mais non, t'es pas méchant. Pas du tout. Au contraire. Parce que C'est vrai que je t'enlève un bien. Je t'enlève un bien immédiat. Mais c'est pour un bien meilleur que je le fais. Tu ne comprends pas. Mais quand tu seras plus grand, tu comprendras. Or, précisément, l'homme de Dieu est celui qui sait cela. Et qui sait qu'il y a une sagesse dans la parole de Dieu. Il y a une sagesse dans le commandement de Dieu. Et s'il calque sa conduite sur les commandements de Dieu, il se retrouvera bien lui-même, c'est son intérêt. C'est son intérêt de suivre le commandement de Dieu. C'est pas seulement par altruisme, même s'il ne veut pas être altruiste. S'il était égoïste, simplement égoïste, ce qu'il ne doit pas être. Mais même en admettant qu'il soit égoïste, qu'il cherche son propre intérêt. Cherche ton intérêt, eh bien, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu qui est ton intérêt. Parce qu'à terme, tu seras gagnant. Tandis que si tu satisfais simplement les penchants de ta nature charnelle, tu seras perdant. Alors voyez-vous, ça, ce sont les bases de la morale chrétienne. La conduite chrétienne n'est pas une conduite qui est entièrement désintéressée. Ça aussi, c'est idyllique. Vous savez, c'est une vision épinalesque. Alors, au nom de ça, n'est-ce pas, bon, ben, moi, je vais ayant tout donné aux autres, je vais vivre à la cloche, je vais... Mais non, la parole de Dieu ne nous demande pas ça. Paul dira, Dieu sait, ou que Jésus dit, c'est de votre Père sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire. Seulement, quand vous cherchez ces choses légitimes, pensez pas seulement à vous, il y a les autres. C'est pas tout accaparé pour soi, c'est cet équilibre constant. Et voyez-vous, la morale chrétienne, l'éthique chrétienne, a souvent été idéalisée. Notamment, c'était le fait des moines. Et les premiers moines qui ont été extrêmement excessifs dans ces domaines-là, dans l'ascétisme, un ascétisme, n'est-ce pas, qui était finalement inhumain et qui justement amène à ce que dit ici, n'est-ce pas, une morale rigide qui ne tient pas compte de l'humain, qui est inhumaine, c'est ce que me disait, c'était toujours le grand thème du professeur Flusser, n'est-ce pas, et il disait que lui, son but quand il dialoguait avec les chrétiens, c'était de refaire du christianisme, disait-il, c'était son expression, une religion humaine. Pourquoi ? Parce que justement, on arrive à des choses inhumaines, à des exigences inhumaines. Et alors, en même temps, il y a une espèce de culpabilisation. Si tu n'es pas capable de vivre comme les moines, comme les moines du désert vivaient avec une figue par jour et un demi-verre d'eau, t'es un mécréant, etc. Si tu n'es pas capable de ne pas te marier, de vivre dans l'ascétisme le plus rigoureux, t'es peut-être pas quand même un païen tout à fait, mais enfin... T'es un petit peu moins bien que le moine qui a fait vœu de chasteté totale, quoi. Bon, des choses comme ça. Et jusqu'à ces derniers temps, c'est-à-dire jusque dans les années 60, le catholicisme conseillait aux époux chrétiens de n'avoir de relations sexuelles que pour avoir des enfants. En dehors de ça, valait mieux s'abstenir, quoi. Si on n'avait pas vraiment envie d'avoir des enfants, valait mieux ne pas avoir de relations sexuelles. Bon, on est dans une vision inhumaine. C'est pas ce que la Bible demande, c'est pas ce que la Bible réclame. Alors vous comprenez, quand on est excessif dans un domaine, eh bien ça bascule dans un autre. Et c'est pourquoi le monde dit aujourd'hui, ben non, maintenant tout, non seulement relations sexuelles dans le mariage, mais avant le mariage, hors du mariage, adultère, homosexualité et tout. Pourquoi ? Parce que pendant des siècles, on a été excessif dans ce domaine-là. Comme nous racontait Émile, quand il était étudiant, jeune étudiant dans un collège catholique, n'est-ce pas, on conseillait aux jeunes gens et jeunes filles de se laver dans le noir pour pas avoir leur propre corps. Enfin, vous voyez le genre. Hein. Aujourd'hui, on en est à la pornographie, on en est au nudisme sur les plages et peut-être bientôt ailleurs que sur les plages. Enfin, vous voyez, l'excès dans l'autre. La Bible ne nous dit pas ça. L'éthique chrétienne est une éthique, n'est-ce pas, où on prend en compte les différentes dimensions de chaque être humain, mais justement où on ne ramène pas tout à soi-même. Et c'est pourquoi justement l'amour de Dieu nous amène à une vie équilibrée. Équilibrée pour nous-mêmes, équilibrée pour les autres, équilibrée pour notre propre famille, équilibrée pour tous ceux qui nous entourent, dans nos relations avec tous ceux qui nous entourent. Et la vie chrétienne est exactement le contraire de ce que, à la fois, des deux caricatures, si je puisse dire, qu'on a vues dans l'histoire, la caricature du passé, l'ascétisme rigoureux, n'est-ce pas, que je caricaturais un petit peu avec l'histoire des moines qui vivaient une demi-figue par jour et d'un verre d'eau, ou ceux qui vivaient, vous savez, au sommet des colonnes, là, les stylistes qui descendaient jamais à terre, plus la colonne était haute, plus l'individu qui était en haut était saint. Bon, des histoires comme ça. Ou alors, maintenant, l'autre extrême, n'est-ce pas? Tu peux être chrétien et puis vivre comme un païen, du moment que tu crois, du moment que tu pratiques l'amour, que tu es un partisan de Mère Teresa, ça va, tout va bien, n'est-ce pas? Alors, c'est ces deux excès-là, quoi. C'est ces deux excès-là. La vérité est entre les deux. Et finalement, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà, si vous voulez, je vais m'arrêter là-dessus.